Bonsoir. Crash le week-end dernier à Goma, au nord Kivu, de l'avion de la compagnie aérienne Busibi Congo. Une délégation du gouvernement qui accompagne l'autorité de l'aviation civile est arrivée hier mardi à Goma. L'objectif est de s'imprégner des causes réelles de cet accident, mais aussi de déterminer les responsabilités. Ce crash a causé la mort de 27 personnes et plusieurs blessés graves. Quelle lecture faire de ce nouvel accident d'avion en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 27 novembre 2019. Participe au débat Passion Bouilly, responsable de la certification et de la surveillance continue des compagnies aériennes à l'autorité de l'aviation civile. Monsieur Mbouilly, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Docteur Moïse Kiakoulé, ministre de la Santé du gouvernement provincial du Nord Kivu, il a présidé le comité des crises sur le crash de Goma. Docteur Moïse Kiakoulé, bonsoir.
Bonsoir, Madame Nelly.
Et Placide Vilamba, secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu, il est aussi chargé du plaidoyer au sein de l'ONG, Cercle international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement. Monsieur Vilamba, bonsoir. Je crois qu'on a un souci avec la ligne de Monsieur Placide Vilamba. Vous êtes nombreux, vous, auditeurs des radios Okapi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jires Kimba Mwanabute. Depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga, les compagnies d'aviation opérant localement en RDC font voler des vieux appareils mal entretenus sous l'œil impuissant des autorités. Jean de Dieu Lusenge, depuis Butembo, Nord Kivu, le problème au Congo, on sait comment, quand commencent les enquêtes, mais la fin n'a jamais été connue. Merci de nous suivre à Goma, au Nord Kivu, sous la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
Après le crash d'avion qui a coûté la vie à 27 personnes dimanche à Goma, les enquêtes pour déterminer les causes exactes de l'accident se sont ouvertes depuis lundi par les services compétents dans le parquet de Goma. Les enquêtes préliminaires parlent d'une succession de pannes techniques survenues sur l'appareil. Le point avec vous, Gabriel Wamenia.
Les sources proches de l'autorité de l'aviation civile à Goma parlent d'une succession de pannes techniques survenues sur les Dornier 228-200 immatriculés 9S-GNH depuis le 15 novembre 2019. D'abord à Butembo, où l'un des moteurs de l'appareil qui effectuait un vol régulier le même jour a connu un problème technique. Un mécanicien y aurait été dépêché et l'avion est revenu à Goma le lendemain 16 novembre après sa réparation, confirme les mêmes sources. Le 23 novembre, les mêmes problème technique aurait réapparu sur l'un des moteurs. Après les travaux techniques, l'appareil aurait effectué un vol local pour vérifier la performance du moteur. Selon les mêmes sources, les Dornier de la compagnie Busibi seraient assurés seulement pour 19 passagers, alors que sur le manifeste, on aurait trouvé 19 passagers plus les deux membres d'équipage. Rappelons que pour raison d'enquête, le parquet de grande instance vient de saisir le véhicule citerne de la société Congo Pétrole qui avait approvisionné en carburant l'appareil accidenté avant son décollage. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Merci Gabriel Wamenya. Passion Bouilly, je rappelle que vous êtes responsable de la certification et la surveillance continue des compagnies aériennes à l'autorité de l'aviation civile. Comment vous expliquez ce crash de dimanche dernier à Goma?
Bien, merci Madame Kelly. D'abord, je commence par, au nom de la Direction générale de l'aviation civile, présenter nos condoléances aux familles des victimes, à la compagnie Busibi, au premier citoyen de la République, je cite son Excellence Monsieur le Président de la République, à la première dame et à tous les Congolais ainsi que les aériens qui évoluent dans ce secteur. Expliquer les causes aujourd'hui, je ne peux pas parce que conformément aux exigences réglementaires et aux dispositions internationales, on ne peut pas donner des causes quand on n'a pas encore mené une enquête. Il faudra laisser que les enquêtes se poursuivent, puis qu'on nous dise c'est quoi, quelle était la cause.
Mais il y a quand même des enquêtes préliminaires qui parlent d'une succession de pannes techniques survenues sur cet appareil, mais qu'on a laissé quand même voler.
Madame, conformément à notre réglementation et à la réglementation internationale, je cite l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'annexe 13, dans l'enquête préliminaire, on ne donne pas des causes. On peut se faire des idées, mais on ne connaît pas ce qui s'est passé réellement. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est ce qu'ils disent, c'est vrai ou faux. Donc, nous devons attendre ce que l'enquête se poursuive.
Alors, vous, en tant que technicien quand même de l'aviation civile, vous avez suivi le reportage de notre confrère de Boutembo qui dit que cet avion a connu beaucoup de problèmes techniques. C'était quand même évitable, non? On pouvait éviter ce crash s'il y avait un contrôle sérieux et régulier.
Bien, madame. J'ai suivi votre confrère et tout ce qu'il disait, c'était au conditionnel. Aurait. Donc, ce n'est pas la vérité. Il faut laisser les enquêtes et on saura quoi, ce qui s'était passé réellement.
Mais est-ce que cet avion a été contrôlé régulièrement?
Moi, je m'occupe de la certification. Je commence par vous dire que c'est une compagnie qui est certifiée. Quand on parle d'une compagnie certifiée, c'est donc c'est une compagnie qui s'est conforme aux exigences réglementaires. Il a un programme de maintenance, il a un programme de suivi de ses activités. Voilà pourquoi je peux dire aujourd'hui que je ne sais pas dire quoi. Laissons les enquêtes que le bureau d'enquête va mener. Et ils vont donner les résultats finaux.
Donc, parce que la compagnie est certifiée, c'est-à-dire que cela signifie que, on peut se dire que parce qu'elle est certifiée, qu'il y a un contrôle régulier.
Exactement. Une compagnie qui est certifiée, elle est soumise à un programme de surveillance de l'autorité. Donc, il y a des inspections chaque fois qui se font.
Donc voilà. Vous confirmez qu'il y a des inspections qui se font chaque fois?
Oui, sur la compagnie, sur les activités de la compagnie.
Mais les sources de notre confrère sur place à Goma, c'est des sources proches de l'autorité de l'aviation civile.
Dommage, madame, parce qu'à Goma, il n'y a pas d'aviation civile. L'aviation civile est à Kinshasa.
Mais comment vous expliquez qu'il n'y ait pas d'aviation civile à Goma, mais qui fait la surveillance de tous ces avions?
Pour faire la surveillance, on ne fait pas la surveillance des avions, on fait la surveillance de la compagnie. Et chaque compagnie est bien organisée, a un programme de surveillance de ses avions. Il y a une direction de la navigabilité, gestion de la navigabilité, qui s'occupe de la maintenance.
Tout comme cette compagnie peut vous fournir des faux documents sur la surveillance de ses avions, le contrôle.
Madame, je vais vous dire une chose. La sécurité commence par la compagnie elle-même. Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez accepter aujourd'hui qu'avec votre voiture, vous sortez qu'il y ait un accident? Non. Donc, elle n'a pas la raison de nous donner des faux documents. Lui-même sait que c'est la vie des humains, c'est mon matériel, je dois les protéger. Donc, la compagnie n'a pas raison de nous fournir des faux documents.
Mm-hmm. Voilà. Mais est-ce que l'aviation civile est au courant que cet avion qui a crashé avait connu de problèmes techniques?
Tant que je n'ai pas encore vu un document, je ne sais pas vous dire quoi. Je n'ai pas vu un document qui me dit qu'il y avait des problèmes techniques. Parce que s'il y a un problème technique, la compagnie notifie à l'autorité de l'aviation civile. Et tant que je n'ai pas vu ces documents-là, je ne peux pas vous dire que c'est la vérité.
Voilà. Il y a aussi plusieurs personnes qui estiment que un aéroport en pleine cité, c'est un risque pour la population. Est-ce qu'on n'envisagerait pas de délocaliser cet aéroport de Goma qui se trouve en plein centre-ville?
Madame, pour répondre à cette question, je vous dirais, je ne sais pas vraiment vous donner la bonne réponse parce qu'il y a des conditions qui sont remplies dans des règlements ou des annexes de l'OACI pour concevoir un aéroport. Charles de Gaulle, c'est en pleine ville. Beaucoup d'aéroports sont en pleine ville. Est-ce que quand il y a des problèmes, c'est parce que l'aéroport est en ville que les gens doivent mourir?
Mais c'est quand même un risque, cet aéroport de Goma. Lorsqu'il y a des crashs pour la population.
Il n'y a pas qu'à Goma, mais à Kinshasa aussi. L'aéroport de Kinshasa Njili, juste à côté de Kinshasan, il y a la population. À Lubumbashi. Donc on va fermer tous ces aéroports-là.
Alors, monsieur Patient Bouilly, comment vous expliquez succession, je peux dire, des crashs d'avions en l'espace de 2 mois. Il y a eu d'abord le crash de l'Antonov, de la présidence. Aujourd'hui, on a le crash de cet avion des Buzibi. Comment vous expliquez ça?
Merci, madame, pour la question. Vous parlez de l'avion de la présidence. C'est un avion d'État. Moi, je ne dirais pas des avions d'État. Ça reste au niveau de l'armée et les autres. Moi, je dirais les avions civils. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un seul accident que je connais depuis que l'année a commencé.
Ouais. les années antérieures, on a eu des crashs en RDC. Il y a cet auditeur, Jean de Dieu Lusenge, qui nous écrit depuis Boutembo Nord Kivu, qui dit le problème au Congo, on sait quand commencent les enquêtes, mais les résultats des enquêtes n'ont jamais été publiés. On ne sait pas à quel moment ça se termine et puis on clôt le dossier.
Merci, madame. Je pense que quand vous prenez les années 2013 à ce jour, en 2013, vous verrez qu'il y avait beaucoup d'accidents. 2014, ça allégeait un peu. Et aujourd'hui, depuis qu'elle en a commencé, moi, je parle d'un seul accident que je connais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui se font et ils nous émettent des recommandations de sécurité. Voilà. S'il faut avoir des rapports d'enquête,
les rapports restent contacter. Secrets.
Non, ça ne reste pas secret, c'est publié sur le site du bureau d'enquête. Il y a un bureau d'enquête ici chez nous, c'est le bureau permanent d'enquête sur les accidents et d'aviation, PBPEA. Voilà. Si vous allez sur leur site, vous allez trouver les rapports d'enquête qu'ils publient.
De tous les crashs qu'il y a eu en RDC?
Tout, je ne sais pas, mais ce que moi je connais, ce que j'ai vu et j'ai lu, ça existe.
Merci, monsieur Patient Bouy. Docteur Moïse Kiakoulé, ministre de la Santé du gouvernement provincial du Nord Kivu. Vous avez présidé le comité des crises sur le crash de Goma. Monsieur le ministre, le bilan reste-t-il le même ou il y a eu évolution? Docteur Moïse Kiakoulé, vous êtes en ligne? Apparemment, on a perdu le ministre de la Santé du gouvernement provincial du Nord Kivu. La réalisation va essayer de le recontacter. Monsieur Placide Vilamba, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame.
Alors, vous êtes secrétaire technique de la société civile du Nord Kivu et aussi chargé du plaidoyer au sein de l'ONG Cercle international pour la défense des droits de l'homme, la paix et l'environnement. Quelle lecture vous faites de ce nouvel accident d'avion RDC?
Tout d'abord, madame, je dois m'acquitter d'une agréable devoir de présenter mes condoléances aux familles et aux personnes qui ont péri suite au crash qui est survenu à Goma le dimanche dernier. Mais aussi saluer les amis avec lesquels nous allons partager ce débat, notamment M. Patient Bouy et son Excellence Dr Moïse Kiakoulé. Notre constat est que l'État semble de laisser le secteur vitaux de la vie de la nation congolaise, d'ailleurs. Parce que simplement, en suivant celui qui a l'expertise à la matière, M. Patient Bouy, on constate directement que la sécurité des passagers est laissée entre les mains des sociétés, selon ses propos, c'est-à-dire elle se fait de bonne foi, elle se déclare de bonne foi. Et cela démontre à quel niveau on laisse la population congolaise à la merci de tous les problèmes qui peuvent les attaquer ou qu'ils peuvent connaître lorsqu'ils effectuent leur va-et-vient, les allées et le retour dans les avions. Et que donc, pour nous, c'est dire que c'est regrettable, parce que tout simplement cela continue alors qu'il venait de se passer un temps qu'on qualifiait même des avions en République démocratique du Congo de cerquets volants. Donc ça révolte d'ailleurs et je crois que cette irresponsabilité qui s'affiche dans ce domaine devait être vite jugulée par les nouvelles institutions en place parce qu'il est inacceptable aujourd'hui qu'un avion déjà qui avait présenté des anomalies dans les jours passés, on le laisse toujours parce que tout simplement, selon les avis de l'expert ici, on laisse la sécurité aérienne aux sociétés, on a laissé l'avion aller avec des personnes pour aller les tuer. Comment des gens peuvent acheter des billets très chers? D'abord, voyager en avion au Congo, c'est très cher. On y associe encore des taxes. Mais enfin, pour se faire tuer. On paie cher pour se faire tuer. Moi, je crois que c'est une irresponsabilité inacceptable et inadmissible qui soit corrigée rapidement. Parce que tout simplement, sinon, tout le monde, si c'est comme ça que la situation se présenterait, c'est que tous ceux qui roulent, nous tous qui roulons ou qui voyageons par des avions ici au Congo, nous sommes déjà voués à la mort avant même de voyager. On se demande même avant de voyager, il faut écrire un testament. Parce tout simplement, le secteur a été abandonné entre les mains de personnes peut-être qui ne prennent pas à cœur que c'est la vie des personnes qui sont en train de gérer. Et que donc, pour nous, c'est dire que ce secteur doit être vite, vite réorganisé. Parce que même sur la question du crash qu'il y a eu avec l'avion présidentiel, quand on nous dit, bon, ça c'est pour les militaires qui doivent s'en occuper. Donc, on ne connaît pas même les responsables jusqu'à ce jour. Je comprends que c'est du sérieux au Congo pour voyager. Et ça, je crois que M. Patient Bouy, avec ceux-là avec qui il travaille, même le ministre des Transports, devait tirer toutes les conséquences. Et c'est ici le lieu d'appeler même les députés nationaux.
Alors, vous parlez...
Appeler le ministre des Transports, afin qu'il fournisse des explications claires sur ces événements malheureux qui... Vous savez que cet accident a coûté même la vie à l'une de nos collègues en province Nord-Kivu. C'était une femme dynamique de la société civile dans le Beni Butembo, Madame Mambo Zawadi. Donc, c'est inacceptable, je vous dis. Il faut encore revoir les choses.
Monsieur Placide Vilamba, vous dites que cet avion a connu des problèmes avant les crashs, mais pour Monsieur Patient Bouy qui est avec nous dans ce studio, l'autorité de l'aviation civile n'était au courant d'aucun problème technique concernant cet avion. Vous tirez d'où que cet avion avait connu de problèmes techniques?
Écoutez, madame, la société civile dans son ensemble, elle base toute sa démarche sur la recherche des informations par rapport aux faits et aux événements qui se produisent au sein de la communauté. Et c'est ça son rôle, le premier rôle de la société civile, c'est la sentinelle. Et la société civile n'est pas distraite. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs acteurs de la société civile se sont mobilisés pour aller mener des recherches sur les lieux du crash, même auprès des services d'habilité. C'est par ces recherches qu'on a retrouvé que même sur les manifestes, il y a même beaucoup de problèmes. Tel manifeste, il y a oui, non, tel 19, non, l'autre 16, non. Donc, même dans les services qui travaillent au sein de l'aéroport de Goma, il y a de sérieux problèmes qu'il faille revoir. Parce que tout simplement, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas trouvé. Nous n'avons pas des informations sur cet avion. Ceux qui utilisent cet avion, ce sont les passagers. Ceux qui travaillent dans les aéroports, ce sont des personnes qui savent voir que cet avion a des problèmes. On a tendance à croire ici que l'entretien des avions, d'après ce que nous observons, c'est mettre ne fût-ce que la nouvelle peinture. Mais on ne s'occupe pas de l'intérieur. Parce qu'en voyant l'extérieur, vous pouvez croire que l'avion était neuf. Mais à l'intérieur, l'avion avait des pannes. Et d'ailleurs, il y a des bouches qui nous confirmaient que l'avion même, à la veille, avait fait des essais pour voir si il va bien fonctionner. Mais après, on s'est retrouvé que l'avion est venu tuer les gens. Donc, il y avait un problème.
Merci.
Nous pensons qu'il y a
des choses
qu'il faut revoir dans tout ce qui se passe.
Merci, Monsieur Placide Vilamba. On vous redonne la parole tout à l'heure. Je vais vous donner la parole, Monsieur Patient Kakoulé, le temps pour répondre à Monsieur Placide Vilamba. Mais le temps avant cela, on va prendre le docteur Moïse Kakoulé, ministre de la Santé du gouvernement provincial du Nord Kivu. Monsieur Moïse Kakoulé, est-ce que docteur Moïse Kakoulé, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame Nelly.
Alors, je disais que vous avez présidé le comité des crises sous le crash de Goma. Monsieur le ministre, le bilan reste-t-il le même ou bien il y a évolution?
Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager justement ce qu'a été la contribution de notre gouvernement provincial, mais aussi celle du gouvernement national par rapport à ce drame que nous avons connu. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord présenter les condoléances à toutes les familles éprouvées parce qu'elles sont parsemées à travers la RDC, mais également de manière particulière à la province du Nord Kivu, parce que la plupart d'entre les victimes se retrouvent être des fils du Nord Kivu, et particulièrement l'espace Kembo Beni, Lubero, mais également Goma et même Lubumbashi, Bukavu. Donc, je présente les condoléances à toutes ces familles éprouvées dans ma main parce qu'il y en a qui sont proches de nous, qui sont décédés. Mais nous saluons également nos co-débatteurs parce que c'est pourquoi nous sommes là, c'est d'essayer un peu d'éclairer l'opinion sur quelle a été pratiquement la contribution du gouvernement quand on est à face de ce genre de drame.
Alors, monsieur,
également les auditeurs de Radio Okapi.
Merci, monsieur le ministre. Alors, le bilan. Alors, le bilan reste le même.
Par rapport au bilan. Tout à fait. Le bilan a évolué dans le sens d'être réduit parce que il faut dire qu'au départ, le premier jour, à l'issue du travail d'État qui a été abattu par les services spécialisés, nous étions à 29 corps, mais aujourd'hui, après qu'on ait revu justement tout ce qui a été fait comme statistique, nous pouvons vous avouer que nous sommes au total à 27 corps. 27 corps.
Et combien de blessés?
27 corps, nous avons au total 17 traumatisés, donc parmi lesquels nous avons ceux-là qui ont des chocs émotionnels. Et nous avons également ceux-là qui ont été, qui ont connu des blessures légères, des blessures profondes ou alors qui sont des blessures graves. Nous devons noter également qu'à l'issue justement de ce crash, le gouvernement provincial s'est très rapidement remis au travail, surtout en mettant à place la cellule de crise qui a été présidée par le vice-gouverneur de la province qui faisait l'intérim du gouverneur, autour de qui les services spécialisés, dont notre ministère, le ministère de l'Intérieur et d'autres services spécialisés étaient écovillés. Et nous avons eu comme tâche justement de faire d'abord l'état des lieux du drame, mais également d'évaluer les actions à mener et pouvoir également dégager des recommandations qui pouvaient aider justement à contenir cette crise.
Alors, avant de parler, monsieur le ministre, s'il vous plaît, avant de parler des actions à mener et des recommandations, nous apprenons que l'identification des corps reste difficile après les décès de ces 27 personnes suite au crash des dimanches. Est-ce que vous confirmez cela, qu'il y a un problème sérieux d'identification des corps?
Je crois que les choses ont très bien évolué, madame, parce que au début, c'était très difficile de pouvoir rattacher les identités que nous avions trouvées sur le manifeste au corps qui était recherché. Mais avec le temps, parce qu'on a mis à contribution les familles, il faut d'abord avouer ici la collaboration que nous avions.
Monsieur le ministre, vous êtes en ligne? On a perdu le ministre. La réalisation va essayer de le retrouver. Alors, Monsieur Passambouy, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Henri Idumbo Kangela depuis Kisangani. Le secteur aérien congolais demeure un espace de mort où les cercueils volent sans secours. Le plus déplorable dans cette histoire, c'est qu'après chaque crash, il y a toujours une équipe pour enquêter. Mais le rapport de cette enquête n'a jamais été présenté. On se demande si les avions en RDC n'ont pas de boîte noire pour aider à détecter les causes de ces crashs. Le cas de l'Antonov portant les membres de la présidence, ainsi que la Jeep présidentielle, dont même le lieu de crash n'était que des tâtonnements. Les uns parlaient de Maniema, d'autres au Sankuru. Bon, si l'appareil retrouvé à Kole était l'Antonov affecté à la présidence, lesquels auraient alors fait crash à Kasese dans le Maniema? Cela nous pousse à dire que cette délégation est allée faire le tourisme au Nord Kivu. Le gouvernement doit assainir les services de l'aviation civile le plus tôt que possible. Sinon, il sera en train d'indemniser les familles des victimes à chaque décollage d'un avion.
Monsieur Passambouy.
Merci Madame Nelly pour la parole. Je commence par répondre un peu à M. Placide qui dit que l'aviation civile laisse la sécurité des passagers et des personnels au profit des transporteurs. Ça, ce n'est pas vrai. Il doit savoir que dans l'aviation civile, c'est un système, l'aviation civile, c'est un système, c'est l'autorité de l'aviation civile, c'est l'autorité des aéroports, ce sont les compagnies aériennes, et tous nous formons l'aviation civile. Nous faisons la supervision de la sécurité. et les compagnies aériennes font la gestion de la sécurité. Ce sont des normes qui sont internationales. Quand il dit qu'il y a des cercueils volants ici chez nous, moi je me dis, est-ce qu'il connaît l'âge de l'avion que possède Air France aujourd'hui? Il a plus de 50 ans. Il y a des avions qui ont plus de 40 ans.
Qui sont régulièrement entretenus.
Je vais arriver là-bas. Sont-ils des cercueils volants? L'avion, tout ce qui fait sa fiabilité, c'est l'entretien. Et aujourd'hui, chez nous, nous avons des programmes d'entretien des compagnies aériennes et nous avons agréé des centres de maintenance qui s'assurent de la maintenance de ces avions-là. La plupart ne sont pas ici, c'est à l'étranger. Vous comprenez, c'est à l'étranger, en France, au Kenya, partout dans le monde. Mais ce n'est pas que ce sont eux qui les font. Ce ne sont pas les Congolais qui les font d'ailleurs. Ce sont ces centres-là qui les font. Et ils suivent régulièrement le programme de maintenance de ces avions-là.
Et ce sont ces compagnies qui vous envoient les rapports d'entretien ou de maintenance.
Je vous ai dit ici que nous faisons des inspections régulièrement auprès des compagnies. Et ces inspections-là, il y a des inspections sur la gestion de la navigabilité.
Mais les compagnies peuvent falsifier les
Madame, c'est nous qui avions, agréé ces centres de maintenance. C'est-à-dire que nous avons le contact avec ces centres de maintenance.
Oui, parce que là, vous-même, vous n'êtes même pas au courant que cet avion avait connu un problème technique.
Madame, j'allais arriver là-bas. C'est ça le défaut des Congolais. C'est tout le monde qui spécule chaque fois qu'il y a un problème. Oh non, c'était la météo, oh c'était ça. Pourquoi nous sommes comme ça? Il y a des accidents qui se font. Dernièrement, en Éthiopie, quand il y a eu l'accident, j'ai vu ici chez nous comment les gens commençaient à écrire, mais même les Éthiopiens n'ont rien écrit. Pourquoi? Donc nous sommes plus spécialistes dans la matière que les autres.
Mais ceux qui sont sur place à Goma,
Madame,
savent d'ailleurs, que cet avion avait connu un problème.
Je vais vous dire une chose. La loi sur l'aviation civile chez nous ici, la loi numéro 10/014, dit ceci dans un de ses articles. Si tu connais un mauvais état d'un avion et que tu n'informes pas, tu le laisses voler, tu es punissable. S'ils le connaissaient, pourquoi ils n'ont pas informé?
Qui allait informer? La population?
Oui, parce qu'il connaît. Il connaît. La loi est publiée au journal officiel, donc elle est opposable à tous.
Mais est-ce que l'aviation civile ne devrait pas avoir finalement des services dans les provinces?
Nous allons y arriver. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'aviation civile, il est encore jeune chez nous. On a créé l'aviation civile il y a à peine 6-7 ans. Le pays étant trop grand, on ne peut pas déployer les gens partout dans un air de 7 ans qu'on n'a pas plus de moyens. Ça part progressivement. Autrefois, vous suivez avec les outils de l'OACI, on était à 11%. Mais aujourd'hui, nous sommes à 51%. Donc, il y a des efforts qui se font. La maintenance, je me répète, la maintenance est suivie. Quand l'accident arrive, il y a toujours des causes. Aujourd'hui, on ne sait pas dire c'est ça la cause parce qu'il y a eu succession de pannes, parce que les gens le disent comme ça. Laissons l'équipe d'enquête mener son enquête, nous dire qu'il y a eu des pannes successives et ces gens-là, nous allons leur donner raison.
Alors, certaines sources nous disent que ces enquêtes risquent de ne pas aboutir car cet avion accidenté, oui, des fabrications allemandes n'était pas doté d'une boîte noire.
Ils ont eu la liste des équipements de cet avion.
C'est des sources qui sont sur place, en tout cas, M. Passion Bouillet.
Oui, bon, moi, quand vous me dites ça, vous donc savez, l'aviation, c'est la documentation. Vous comprenez? L'aviation, c'est la documentation. Quand tu n'as pas un document, il ne faut pas dire n'importe quoi. Restons calmes, laissons l'enquête mener, faire son travail. Parmi les avions qui sont chez nous ici, en principe, je ne sais pas s'il y a des avions qui manquent des boissons noires, FDR ou bien CVR, vous appelez les boissons noires. Je ne pense pas. Parce que les avions, quand ils sont conçus, il y a des équipements, la liste des équipements et des instruments. Et c'est donné dans le manuel. Toi, tu n'as pas lu le manuel, tu dis qu'il n'y a pas de FDR. Pourquoi tu vas les dire?
Ou la boîte noire a disparu.
Est-ce qu'ils ont fait des recherches pour dire que ça a disparu?
Merci. Docteur Moïse Kakoulé, vous êtes en ligne?
Oui, je suis là, madame.
Alors, on a été coupé par les mauvaises conditions de la ligne. Vous étiez en train de parler des actions que le gouvernement provincial du Nord Kivu est en train de mener pour aider les familles qui ont perdu les leurs dans ces crashs de dimanche dernier.
Tout à fait. En fait, j'étais en train de vouloir partager à l'opinion justement la contribution qui a été faite du gouvernement provincial, parce que pour qu'on arrive à contenir justement ce drame, il a fallu déployer très rapidement les experts qui devaient aider d'abord à éteindre le feu, après qu'on ait fait l'état des lieux, la recherche et le sauvetage des survivants, la fouille et l'extraction des corps, et la désinfection du site. Ce travail a été fait très rapidement le dimanche, là, aussitôt que l'information avait été partagée. Il avait été précédé par une sécurisation du site, parce qu'il y avait un afflux massif de la population qui était curieuse, mais aussi en émoi. Dieu merci, les services de sécurité se sont déployés sur les lieux, et cela a permis qu'on soit à même de pouvoir dégager le site et que les services de secours soient mis à contribution pour permettre à ceux qui pouvaient être sauvés puissent l'être. Mais également, on avait prépositionné pratiquement, on avait organisé le déploiement de tous ceux qui étaient retrouvés traumatisés ou blessés. On les orientait directement vers les formations médicales spécialisées pour une bonne prise en charge. Et cela a été assuré par le gouvernement provincial. Et qu'il y avait des morgues qui avaient été aussi retenues pour pouvoir accueillir le corps sans vie. Ce travail-là s'est fait de manière rapide. Et là, nous saluons pratiquement l'implication et l'appropriation totale du gouvernement provincial, justement, de cette action ou de ces actions. Et nous saluons ici, en passant, la bravoure, justement, de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de province qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre à ce que les opérations de secours pour la première journée se fassent sans faille.
Monsieur le ministre, est-ce que les corps des personnes qui n'habitaient pas Goma seront rapatriés dans leur milieu d'origine?
Là, vous me donnez l'occasion justement de saluer l'appui du gouvernement central qui a été substantiel, parce qu'aussitôt que le gouvernement de la République a appris justement cette désolation que nous avons connue ici. Le chef de l'État a déployé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour venir s'enquérir de la situation. Et en arrivant, les moyens ont été donnés justement pour faciliter non seulement le rapatriement ou le transfert des corps vers les lieux où ils devraient être inhumés, mais aussi assurer la prise en charge médicale de ceux qui sont encore dans les hôpitaux qui sont soignés. Nous devons aussi reconnaître que c'était aussi l'occasion pour le vice-premier ministre de procéder justement au lancement officiel du processus de l'enquête qui pourra nous permettre de pouvoir savoir ce qui s'est passé pour que cet accident puisse survenir.
Alors, on va prendre pour vous, monsieur le ministre provincial, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Je ne vous saisis pas bien, madame, pardon.
Vous restez en ligne, on va prendre pour vous une réaction qui vient de Kinshasa.
Ok.
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Partant de l'emplacement de l'aéroport international de Goma, il est question seulement de la localisation, car tous les crashs qui ont eu à se produire à cet aéroport, les riverains y sortent souvent victimes innocemment, car avec les marchés centrales de Virunga au sud, les marchés de Birere et la ville à l'est, ainsi que les quartiers populaires de Majengo au nord-ouest, si un jour un Boeing gratte des pistes, ça sera pire que ce que nous vivons avec l'emplacement de cet aéroport. Cette délégation du gouvernement est inopportune dans la mesure où le pire n'a pas été évité avant et ne fait que du médecin après la mort.
Monsieur le ministre provincial, comment vous réagissez à cette réflexion de passion?
Dans tous les cas, l'auditeur a peut-être raison parce qu'il connaît très bien la ville Mais ce que je dois lui dire, c'est que le positionnement de la ville de Goma a toujours suscité beaucoup d'interrogations. D'autant plus qu'il n'y a pas que l'aéroport qui pose problème. Il n'ignore pas qu'il y a un volcan à côté de nous. Nous avons également le lac. Si cela était les raisons, je crois qu'on aurait dû effectivement ne pas ériger cette ville ici à Goma. Mais il faut avouer qu'au même moment qu'il y a des menaces, parce qu'il y a même le gaz au sein de notre lac ici, au même moment qu'il y a des menaces, la ville s'avère être une ville qui attire beaucoup de monde justement. C'est ça sa richesse. Et cette richesse qui paraît d'une part comme quelque chose de dangereux, mais également c'est aussi, on peut dire qu'on peut capitaliser ce qui paraît être une menace comme étant une opportunité qui peut nous permettre d'attirer encore un peu plus de ressources à notre pays, parce que Goma, c'est une ville touristique, parce que nous avons non seulement le lac, nous avons le parc qui est à côté de nous, nous avons le volcan. Je crois qu'il ne faut pas aller sur les pistes des pessimistes. Nous pensons que cette ville, comme elle est déjà là, il faut justement essayer de réfléchir sur comment l'aider à pouvoir se maintenir dans ce contexte qui est un peu particulier, de manière à tirer le profit à ces éléments-là qui peuvent nous aider à être de manière un peu plus correcte, les lieux plus sûrs. Ce qu'il faut peut-être recommander, c'est que nos services devront mettre de l'ordre. Tel que je viens de suivre mes co-débatteurs, nous pensons que si, justement, il y a une régulation qui se fait de manière adéquate dans le cadre non seulement de l'aviation civile, dans tous les services, et qu'on soit à même de pouvoir éviter ce genre de désastre que nous avons connu, nous allons même oublier le volcan, nous allons oublier qu'il y a des crashs qui peuvent arriver, nous allons oublier qu'il y a des gaz. Donc ici, ce que moi je recommande, c'est de savoir anticiper pour empêcher que le pire ne puisse nous arriver. Nous devons être à même, justement, d'avancer et surtout de pouvoir convertir ce qui paraît comme un danger à une opportunité de pouvoir nous développer.
Merci, monsieur le ministre. Placide Vilamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Maître Serge Mouteranio, de Goma, au Nord Kivu. Cette mission est énervante vis-à-vis des familles des victimes, parce qu'il faut se demander, au-delà de la descente pour s'imprégner des causes réelles du crash, combien de fois cette mission est descendue sur Goma ou toute autre ville pour inspecter sur l'état des enjeux des compagnies aériennes qui œuvrent en province. Ce crash doit interpeller les services de matriculation des avions pour ne plus que se rendre compte aussi de leur date de fabrication, car il s'avère que certaines compagnies nous amènent de vieilleries d'avions qui pourtant ont leur place à la poubelle.
Placide Vilamba.
L'auditeur a tout à fait raison. Je crois que ce sont des voix des citoyens lambda qui essaient de jeter un regard sur un secteur qui porte la vie des Congolais à chaque jour. Aussi, il faut dire que ce secteur d'aviation devait quand même être organisé, comme nous l'avons dit, mais comme Patient Bouy voulait dire qu'il n'y a pas de moyens pour l'organiser, je crois qu'il devait d'abord avoir un plan d'urgence. Parce que ce n'est pas tous les aéroports du pays qui ont la capacité d'accueillir des avions comme l'aéroport de Goma. Je crois que c'est l'aéroport, ça peut être le deuxième ou le troisième aéroport le plus fréquenté du pays. Et à ce titre-là, on devait quand même disposer d'un service minimum d'aviation civile à Goma qui pourrait permettre à assurer le contrôle des avions et même donner des orientations aux opérateurs de transport. Et tout de même, si on essaie d'analyser le nombre de crashs qu'il y a eu au pays et faire la liste des orphelins, des veuves, des blessés, des traumatisés, je crois que c'est une liste qui pourrait peut-être occasionner aussi d'autres problèmes à nos services, parce qu'on ne pouvait pas s'en réjouir de gérer un secteur qui cause des dégâts chaque jour.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez, Placide Vilamba, pour éviter ce genre d'accident qu'on peut prévenir?
Pour éviter, je crois que nous, l'État devait continuer avec cette politique d'acheter les avions, parce qu'on a créé Congo Airways. nous pensons que Congo Airways devait se doter des avions au lieu de laisser le secteur à tout le monde sans qu'il y ait de contrôle. On devait continuer avec cette politique d'amener des avions de nouvelle génération qui pouvaient relier les provinces. Parce que cet avion-là, il travaillait sur le transport local. Il est vrai qu'au Nord Kivu, il est difficile de trouver des avions qui font les relais de l'intérieur vers la ville de Goma. Mais aussi, comme Pascal Mouila dit, le gouvernement central devait faire tout pour installer les services d'aviation civile dans les aéroports à l'intérieur du pays, et particulièrement à Goma, où aujourd'hui il y a une forte fréquentation des avions. Mais aussi, cet aéroport de Goma, moi, d'après les informations à notre possession,
rapidement,
il dit qu'il pourrait être érigé, je crois, à Rutshuru, près de la cité de Kiwanja. Là, il y a une concession, la RVA, où on devait quand même songer à construire peut-être un aéroport d'appui, parce que si cet aéroport est saturé, je crois qu'aujourd'hui, on n'aura pas l'aéroport le plus proche pour assister les avions qui ont des difficultés.
Merci, Placide Vilamba, Passion Bouilly. Votre conclusion, tous les intervenants reviennent sur le fait qu'il faut mettre de l'ordre dans les services de l'aviation civile, anticiper pour éviter les pires. Comment vous réagissez?
Merci, Madame Kelly. C'est une observation qu'il donne. Nous la saluons et nous vous disons que nous sommes déjà organisés. Parce que si nous sommes passés de 26% à 51%, c'est une organisation sérieuse aujourd'hui qui est félicitée même par l'OACI, l'Organisation d'aviation civile internationale. Et les moyens, on n'a pas dit qu'on n'a pas des moyens. Nous sommes en train de chercher des moyens pour nous déployer dans toutes les provinces. Il parle des plans d'urgence. Les plans d'urgence, c'est chaque aéroport a son plan d'urgence qui est développé par la régie des voies aériennes.
Merci, Passion Bouilly. On n'a plus beaucoup de temps. On vous aura prochainement. Peut-être, Dr. Moïse Kakoulé, votre conclusion.
Nous remercions la radio Okapi de nous avoir offert cette opportunité. Nous disons justement qu'il faut que nous mettions de l'ordre dans nos services. Si nous avons la capacité justement de pouvoir desservir tout cet espace qui est surnommé pratiquement à l'est de la République démocratique du Congo, il faut que nous mettions du sérieux dans la manière de réguler justement ce service d'aviation.
Parce Merci. Que cela nous permet... Merci, Dr. Moïse Kakoulé. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.